Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Patience Ngalula. D'abord les titres de ce journal. Des combats s'intensifient entre les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais aux volontaires pour la défense de la patrie Wazalendo dans les territoires des Masisi. Des détails dans ce journal. La synergie des syndicats des enseignants du Congo décide de renforcer la grève dans la province éducationnelle Nord Kivu 2. C'est le résultat d'une assemblée générale extraordinaire tenue dimanche à Beni. Notre invitée est assez particulière. Elle fabrique des craies dans les Maniema. Nous allons découvrir ensemble la sœur Marie Bernard Alima, superviseure générale des sœurs missionnaires de la Croix et de la Miséricorde. Bonjour. Au Nord Kivu, les combats opposent depuis tôt ce lundi le rebelle M23 soutenu par les Rwandais aux volontaires pour la défense de la patrie VDP Wazalendo dans les territoires de Masisi. C'est précisément dans l'agglomération de Mueto et autres villages environnants dans les groupements de Bachalikaembe. Selon plusieurs sources locales, ces combats qui ont commencé depuis le début de ce mois de septembre dans cette zone ne font que s'intensifier. Bernard Nyangi.
C'est depuis 3h du matin ce lundi que d'intenses combats ont de nouveau repris dans le village Mueto, Kanzenze Kanyati et Nyamitaba, entre autres, dans cette partie du groupement Bachalikaembe. Les rebelles du M23 RDF auraient repris les attaques contre les groupes armés après d'autres combats presque toute la journée hier dimanche entre les mêmes belligérants dans la même zone. Nos sources supposent que cette rébellion soutenue par le Rwanda attaquerait en représailles après avoir subi de lourdes pertes lors des affrontements de dimanche. Depuis le 1er septembre, les combats parfois sporadiques opposent les rebelles du M23 aux différents groupes armés, notamment autour de Kibirizi, dans la chefferie de Buito, territoire de Rutshuru, ainsi que dans les deux groupements de la chefferie de Bachali, en territoire de Masisi. Plusieurs témoignages font état d'un renforcement inquiétant des positions des rebelles en hommes et en armement dans ces zones, ce qui, pour nos sources, mettrait de plus en plus en péril le processus de paix en cours à Luanda, en Angola. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Pendant ce temps, en Ituri, plus de 3000 ménages de retournés ont reçu une assistance humanitaire dans le cadre du projet de l'UNICEF Réponse Rapide. Les bénéficiaires sont des Bakonde et Itendei dans le secteur de Banyalikilo, dans le territoire de Djougou. Ces dons sont constitués des bâches, d'outils aratoires, des ustensiles de cuisine ainsi que des kits d'hygiène pour des femmes. Selon l'ONG PPSSP, l'objectif est de soulager les souffrances de ces personnes vulnérables qui ont presque tout perdu à la suite des exactions des groupes armés. Les points avec Ezekiel Mouzalia.
C'est depuis le mois de juillet dernier que ces déplacés ont fui les attaques des groupes armés dans les entités de Lodjo, Galaï, Itendei, plutôt des entités du secteur de Banyalikilo dans le territoire de Djougou. Depuis leur retour dans leur milieu d'origine, certains passent la nuit sous des tentes de fortune exposées aux intempéries dans la forêt d'Amolinga. D'autres vivent dans une précarité extrême dans des familles d'accueil. Mais pour tous, cette assistance constituée d'articles ménagers essentiels ainsi que des bâches et du pain béni. Willy Ngeli, l'un des bénéficiaires.
Quand ils ont beaucoup garanti avec des non-vivres ici à Itendei et à Kilo, Bakonde, Kilo Misio. C'est presque pas moins de 3500 ménages qui ont reçu des non-vivres. Ce geste, c'est vraiment à louer. Il y a des bidons, des couvertures, des pioches, des pagnes, des choses qui peuvent alors beaucoup aider dans la cuisine. L'UNICEF doit encore faire des plaidoyers pour de plus de ce qu'il a fait à Kilo et à Itendei, Bakonde, etc.
Plus de 14 000 familles de déplacés vivent dans des conditions difficiles, notamment dans la région minière de Mungwalu, depuis la dernière attaque de Lodjo qui avait coûté la vie à de nombreux civils et l'incendie de leur maison. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Cependant, la situation humanitaire des déplacés se détériore dans les territoires des Bagata en province du Kwilu. Ils sont plus de 62 000 déplacés internes qui ont fui les incursions des miliciens Mobondo entre mai et juillet dernier à Kwamout, au Maïndombe et dans cette partie du secteur Wamba. Ces personnes vivent principalement dans les villages Fambondo, Fampanda, Fasila, Fatobo, Fatundu, Misai, Beno et autres et sont dépourvus de tout. C'est ce qui ressort du récent rapport de la mission d'évaluation rapide effectuée par OCHA et d'autres organisations humanitaires. Le point focal de l'ONG Cause Rurale, Brunel Ndombe, qui a fait partie de l'équipe, explique au micro de Irène Mbomaluzolo.
Cette mission était une mission humanitaire d'évaluation rapide multisectorielle. Vous savez que depuis mi-mai 2024, ces déplacés souffrent aujourd'hui. Ils n'ont pas accès, bien sûr, à l'eau potable. Ils n'ont pas accès aux soins de santé. Ils n'ont pas accès à l'éducation, surtout les enfants, à l'âge de la scolarité. Ils n'ont pas accès à la nourriture. Ils n'ont plus rien, même les AME, les articles ménagères essentiels. Ils n'en ont pas parce que depuis ces mouvements, ils ont tout abandonné, même leurs champs et tout. Et aujourd'hui, il y a une insécurité alimentaire et dans la zone de santé de Kikongo et de Bagata. Ces déplacés souffrent tellement des cas de malnutrition sévère, aiguë et modérée également. Nous plaidons au gouvernement congolais que le gouvernement congolais puisse prendre les choses en main. Parce que nous sentons qu'il ne s'intéresse que de la partie est du pays, mais la partie ouest n'est pas vraiment du tout comptée dans le plan d'action du gouvernement. La situation aujourd'hui est catastrophique. D'autres, surtout les jeunes filles vivent aujourd'hui des sexes et des survies. Ça prouve en suffisance que le besoin humanitaire est vraiment d'urgent dans ce coin. Il y a les personnes de troisième âge et surtout les enfants qui sont exposés à des maladies.
Au chapitre de l'éducation, la synergie des syndicats des enseignants du Congo a décidé de durcir la grève dans la province éducationnelle Nord Kivu 2. C'est le résultat d'une assemblée générale extraordinaire tenue dimanche à Beni. Pendant ce temps, à Goma, certaines autorités scolaires envisagent de remplacer les enseignants grévistes. Une semaine après la rentrée scolaire dans les pays, les syndicats des enseignants annoncent l'intensification de la grève dans plusieurs autres régions de la République. Les points avec Sadiki Aboubakar.
Lors d'une assemblée générale extraordinaire dimanche à Beni, la synergie des syndicats des enseignants du Grand Nord Kivu a décidé de durcir leur mouvement de grève. Ghislain Bambiri-Kiré, porte-parole de la synergie, explique les raisons de cette radicalisation.
De toutes les promesses du gouvernement, rien n'est fait jusque-là. Après analyse, les enseignants ont décidé de radicaliser leur mouvement de grève jusqu'à ce que la solution concrète soit trouvée.
À Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, la grève se poursuit dans la plupart des écoles publiques. Le chef de la sous-division de l'EPST Karisimbi 1 menace même de remplacer les enseignants grévistes. Dans le Congo central, la situation est similaire. Lors d'une assemblée générale dimanche, la synergie des syndicats des enseignants a également décidé de poursuivre la grève. Voici les déclarations de Simon Siloulou qui a lu le communiqué final.
Le gouvernement reste immobile dans les mouvements de pouvoir payer. L'enseignant aussi reste immobile depuis la maison jusqu'à ce que nous allons toucher à main la promesse. Le jour suivant, les enseignants reprendront le chemin de l'école.
La grève se poursuit également à Bukavu dans le sud Kivu. Cependant, les parents du lycée Thérésie, une école conventionnée catholique, ont décidé de reprendre la prise en charge des enseignants pour assurer la continuité de l'éducation de leurs enfants. Les syndicats des enseignants d'Ikwilu se sont également réunis dimanche à Bandunduville et ont décidé de ne pas reprendre les cours. En revanche, à Kananga dans le Kasaï et à Bunia en Ituri, la grève n'est pas vraiment ressentie. À Kalemie, dans la province de Tanganyika, les cours ont repris ce lundi dans la plupart des écoles conventionnées catholiques à la suite d'un appel du syndicat des enseignants des écoles conventionnées catholiques, Sinecat. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Restons à Beni, où malgré les mots d'ordre de gréver, certains enseignants ont quand même repris la grève ce lundi matin. Constat fait sur le terrain par notre reporter Guylaine Kassassia.
Sur les 6 écoles publiques de la place que nous avons visitées ce matin, 4 suivent les mots d'ordre des grèves lancées par leur syndicat. Seules 2 écoles fonctionnent plutôt normalement. Un enseignant rencontré à plein cours explique sa motivation.
Nous sommes en train d'enseigner, c'est parce que nous savons que notre gouvernement, il est ce qu'il est. Et à rapport de cela, vit des différentes situations qui se passent dans cette contrée ici. Les guerres, des arrêts intempestifs organisés par exemple, des mouvements de presse, des groupes de pression écossais. Nous avons jugé mieux, nous, personnellement, de reprendre avec le chemin de l'école. C'est pour prévenir à des éventuelles situations qui peuvent aussi avoir pitié des enfants.
Les élèves des écoles en grève qui viennent et retournent à la maison sans étudier parlent d'une grève qui les pénalise. L'une d'elles que nous avons rencontrée à l'entrée de l'Institut Bungou explique ce désarroi.
Les enseignants ne sont pas à l'école. Maintenant, nous sommes rentrés. Nous venons de faire presque une semaine. Nous arrivons, les enseignants ne sont pas là. C'est seulement le bureau qui est ouvert. Nous regrettons les écoles privées sont en train d'étudier, mais nous sommes là toujours, sans rien faire. Nous demandons alors au gouvernement de répondre à leurs demandes.
Du côté de la province de la Tchopo, une semaine après la rentrée scolaire 2024-2025, les cours n'ont toujours pas commencé dans les écoles publiques du territoire de Bassoko. Les enseignants exigent d'abord le paiement de leur salaire du mois d'août dernier avant d'envisager toute éventuelle activité scolaire. La Caritas diocésaine de Kisangani, accusée d'être à l'origine des souffrances des enseignants, rejette toute responsabilité. Les points avec Jacques Mukonkole.
À Bassoko, territoire situé à plus de 260 km de Kisangani en aval du fleuve Congo, les élèves n'ont toujours pas repris le chemin de l'école une semaine après la rentrée scolaire officielle. Les chevaliers de la craie conditionnent le démarrage des enseignements au paiement notamment de leur salaire du mois dernier. Ils accusent la Caritas diocésaine Kisangani d'être responsable de leur malheur, comme l'explique le porte-parole de la synergie des syndicats du territoire de Bassoko, Blaise Bongele.
Le territoire de Bassoko a connu toujours les retard de paye, le salaire vient qu'après des mois. Comment est-ce que nous allons survivre? Comment est-ce que nous aurons le courage de travailler? La Caritas Kisangani nous fait souffrir expressément.
Réponse du berger à la bergère. La Caritas diocésaine dit avoir déjà expliqué aux enseignants concernés, et cela à maintes reprises, qu'elle niait pour rien en ce qui lui est reproché. L'abbé Ferdinand Batoubou, coordonnateur de la Caritas diocésaine Kisangani.
Les retards, ce n'est pas nous qui retenons les salaires des enseignants. Le problème des retards, c'est au niveau du gouvernement central.
Même si le salaire attendu du mois d'août parvenait à être payé, les enseignants de Bassoko déclarent qu'ils ne pourront reprendre les cours qu'après avoir touché la paye complémentaire promise par le gouvernement. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Dans la province du Tanganyika, deux cas suspects de monkeypox sont enregistrés dans les territoires de Kabalo. Dans une déclaration hier à la radio Kapi, l'administrateur du territoire annonce que des échantillons sont déjà envoyés à Kinshasa. Il sensibilise la population au respect des mesures barrières. Les points avec Paulin Munanga.
Dans un communiqué rendu public ce samedi, l'administrateur du territoire de Kabalo a annoncé la détection des deux cas suspects d'impox ou la variole des singes. Prince Senghor décrit les signes de cette maladie et appelle ses administrés à plus de vigilance et au respect des mesures barrières, lit-on dans ses communiqués. Il ajoute que les deux cas suspects sont isolés à l'hôpital général de référence de Kabalo.
À notre niveau, on n'a pas la latitude de confirmer. Mais tous les signes possibles que nous avons observés sont des signes qui témoignent noir sur blanc qu'il y a déjà ces cas de maladie. J'ai élaboré ce communiqué, c'était à connaissance des causes pour sensibiliser la population à être toujours vigilant. Il est temps pour nous de voir la suite parce que les éléments ont été déjà envoyés à Kinshasa et que les deux personnes continuent à être gardées d'une manière un peu isolée pour éviter le contact.
Rappelons que notre cas suspect d'impox a été enregistré dans le territoire de Moba il y a quelques semaines. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
Rendons-nous au sud Kivu, où la population de Bukavu a été conviée hier à un meeting populaire par les gouverneurs de province au stade de Kadutu dans la ville de Bukavu. Jean-Jacques Pouroussi a étalé les bilans de ces deux mois à la tête de la province. Un bilan axé essentiellement sur les secteurs miniers, infrastructurels, sécuritaires et financiers. Cet exercice de redevabilité est perçu différemment dans l'opinion publique. Jean Kassami.
Certains habitants considèrent que le bilan présenté par le gouverneur de province est un signe de bonne gouvernance, tandis que d'autres préfèrent attendre voir des faits palpables sur le terrain. Dans son exposé de plus de 2 heures, Jean-Jacques Pouroussi est revenu sur l'amélioration des recettes du trésor public au cours de 2 mois de son règne.
Tous les services d'assiette qui ont aidé à collecter les taxes, nous avons leur restituer la partie prévue par les dispositions juridiques en la matière.
Satisfaction pour ce jeune qui est venu suivre le meeting par simple curiosité.
Qu'il puisse continuer comme ça, notre province ira de l'avant.
Bien qu'applaudi par la majorité, certains autres habitants du site Kivu restent sceptiques.
Prions sans cesse pour nos autorités provinciales parce qu'ils ont un morceau dur à croquer. Ils peuvent avoir l'idée de travailler, mais avec le mot d'ordre qui vient de leur hiérarchie, ça ne peut pas leur permettre de bien travailler.
2 mois pour un mandat de 5 ans, c'est encore possible de réaliser des travaux à impact invisible, espère encore la plupart des participants au meeting de redevabilité. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Kenya, les bilans de l'incendie qui a ravagé les dortoirs de l'école primaire Hillside à Andaracha, dans le comté de Nyeri, à 170 km de Nairobi, est monté à 21 morts. Un nouveau décompte officiel a été publié samedi. L'internat abritait plus de 156 enfants âgés de 9 à 13 ans. Alors que plus de 100 ont été retrouvés après les drames, plusieurs d'entre eux manquent toujours à l'appel. Samedi, les corps des victimes ont commencé à être retirés du lieu du drame. Nous avons pu récupérer 19 corps. Ces corps sont très largement brûlés, à tel point qu'il serait impossible pour leurs parents de les identifier, a déclaré Johansen Odior, pathologiste du gouvernement. Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de cet incendie qui s'est déclaré jeudi soir. Des voix pointent une négligence présumée concernant les mesures de sécurité. Le président kényan a décrété 3 jours de deuil à compter de ce lundi.
L'invité.
Notre invitée, c'est la sœur Marie Bernard Alima, superviseure générale des sœurs missionnaires de la Croix et de la Miséricorde. Elle nous parle de la fabrication des craies et la transformation de leurs produits à Kinkungwa, village situé à plus de 100 km de Kindu. Sœur Marie Bernard Alima s'entretient avec Florence Kizalunga.
Sœur Marie Bernard Alima, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes dans votre congrégation ici. Vous êtes entourée par des boîtes de craies. C'est vous-même qui fabriquez ces craies?
Oui, nous fabriquons de la craie. Nous appelons ça Chakinzuri Yakwetu Kinkungwa. C'est une craie de haute qualité que nous avons décidé de commencer la fabrication des craies pour renforcer l'éducation des enfants et surtout les écoles qui sont dans les périphéries, loin des centres-villes. Nous en produisons pour essayer de renforcer les secteurs éducationnels.
Ma sœur, où est-ce que vous trouvez les matières premières pour la fabrication de ces craies?
C'est ça le grand problème que nous éprouvons. Nous achetons à Goma, à Kinshasa, les matières premières, mais nous sommes en train de réfléchir avec le gouverneur, ça c'est parmi les acquis, c'est qu'on va voir comment avoir produire nous-mêmes la matière première pour la fabrication des craies. Parce que c'est une matière qui est rare, qu'on ne trouve pas, la craie, et c'est pour ça qu'on se plaint beaucoup que les enfants ne savent pas lire et écrire par manque de craie. Ça coûte trop cher, et alors nous allons réfléchir ensemble sur la possibilité d'en trouver davantage.
Maintenant, ces craies que vous fabriquez ici, vous les vendez ou bien vous donnez gratuitement aux écoles parce que vous contribuez à l'amélioration de l'éducation des enfants?
Mais comment on peut distribuer? On n'a jamais reçu un appui pour faire ce travail-là. C'est nous-mêmes avec nos efforts personnels. C'est pour ça que même si c'est un prix assez réduit, mais quand même, nous vendons pour que nous puissions encore acheter la matière première pour en produire davantage. Mais ça, la demande est très élevée par rapport à la production. C'est pour ça que le gouverneur a dit qu'ils vont nous accompagner pour réfléchir sur la possibilité d'en produire davantage et d'alléger effectivement la tâche des écoles.
Comment vous organisez la vente de ces craies?
La vente de ces craies, nous en parlons aux écoles. On passe d'une école à une autre et nous passons le message seulement dans les églises, au niveau de l'inspection, mais localement. On ne sait pas faire ça à grande échelle parce qu'on ne produit pas beaucoup. Mais ceux qui découvrent ça nous encouragent et disent que ça ne peut pas rester un produit local, qu'il faut étendre ça même au niveau de la province. Et c'est pour ça que ça nécessite une grande contribution, un appui pour que nous puissions en produire davantage.
Ma sœur, dans votre congrégation, nous voyons aussi des gis, nous voyons des tomates, que vous êtes aussi dans le domaine de l'agriculture.
Oui, non seulement de l'agriculture, mais de la transformation. Nous travaillons sur la chaîne des valeurs. Nous avons des arbres fruitiers et nous produisons aussi les jus. Nous avons des tomates. L'ambition pour nous, c'est de produire aussi des tomates concentrées. Et nous avons des champs de maïs pour la fabrication de pop-corn. Nous fabriquons aussi des biscuits et ce qu'ils appellent ce soma, donc la bouillie pour les enfants qui souffrent de malnutrition. Ce qui est intéressant, c'est que les produits, la matière première pour fabriquer tout ça, ça provient de nos champs. Donc, nous sommes engagés dans l'agriculture et pour produire la semence, comme pour être des agro-multiplicateurs, mais aussi pour la transformation des produits que nous prélevons de nos champs.
Cette transformation, vous le faites comment? Vous avez des machines, c'est industrialisé?
ce n'est pas encore industrialisé. C'est aussi parmi l'objet d'échange avec le gouverneur. Comment trouver des machines de transformation? Ils ont déjà vu les champs, mais alors il faut transformer. Nous avons commencé de manière artisanale, mais vu la qualité et le besoin effectivement exprimé pour l'acquisition de tout ça, et surtout la demande au niveau de la population, il nous a encouragés. Il a dit effectivement que dans le domaine de la transformation, que nous allons approfondir aussi la réflexion pour voir comment on peut améliorer et répondre justement à la grande demande de la population.
Quelle qualité de main-d'œuvre que vous utilisez ici?
La main-d'œuvre, souvent les mamans que nous formons, c'est avec elles que nous travaillons. Les mêmes personnes qu'on dit parfois démunies, nous essayons de redonner dignité en leur apprenant du travail. Dans nos centres de formation professionnelle, ils viennent, ils apprennent et ils produisent avec nous.
Ma sœur, après avoir vendu, comment vous organisez avec le pays que vous trouvez ici, de tout ce que vous transformez ici?
Le pays que nous trouvons, nous investissons dans les œuvres pour nourrir les enfants abandonnés, pour encadrer ces mamans, ces femmes qui sont en difficulté, ces jeunes désœuvrés, on leur donne quelque chose. Même les enfants qui nous proviennent d'autres provinces, du Sud, qui, par exemple, nous accueillons aussi des enfants qui n'ont pas de parents. C'est pour les aider que nous développons toutes ces activités-là. Et nous sommes heureuses de faire ça. Et si quelqu'un peut nous rejoindre sur ce champ-là, je crois qu'on aura soulagé beaucoup de souffrances, surtout des jeunes et des enfants et même des femmes.
Sœur Marie-Bernard Alima, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Sœur Marie-Bernard Alima, superviseur général des sœurs missionnaires de la Croix et de la Miséricorde à Kikungwa, au Maniema, répondait aux questions de Florence Kizalunga. Et c'est la fin de cette édition d'information, mise en onde par Jean-Claude Tiala et préparée par Élisée Chukota Chivueta et Pele Kipela Mondo. Au micro, Patience Ngalula Mbombo. Merci d'avoir été des nôtres.